Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Xenia Jornoklé de la rédaction ukrainienne
Vétail.
Pour nous parler du renouveau du cinéma de Kiev depuis 2 ans. Pour la rédaction en russe, Elsa Vidal.
Dobry vecher.
Vous nous parlerez du vote russe lors de la présidentielle américaine mardi dernier. Et Asbel Lopez de la rédaction en espagnol.
Hola.
Vous reviendrez sur la catastrophe qui a dévasté Valence et ses environs. Ce qui fait la une, bien sûr, de l'actualité, c'est l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ce comeback, ce retour fracassant, suscite l'intérêt du monde entier, notamment des pays qui ont affaire avec l'Amérique. Avec vous, Elsa, commençons par la Russie. La réaction initiale des dirigeants russes à cette élection a été pour le moins surprenante.
Oui, en effet, Philippe, puisqu'elle a d'abord consisté en une non-réaction. Le 6 novembre, au milieu des messages qui affluaient du monde entier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait savoir que Vladimir Poutine, pour sa part, n'avait pas prévu de féliciter Trump. Mais assez vite, ça a évolué en une pique à destination de Kamala Harris. Celle-ci avait en effet affirmé que Poutine mangeait des gens comme Trump au petit déjeuner. Dmitri Peskov a alors rétorqué avec malice que non, Poutine ne mange pas d'hommes.
La Russie qui s'accommode finalement du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, même si son premier mandat en tant que 45e président ne s'était pas passé sans accroc avec la Russie.
Absolument, Philippe. Hier, au club Valdai, depuis Sochi, sur la mer Noire, Vladimir Poutine a non seulement félicité finalement le candidat républicain pour sa victoire, mais il a aussi admis avoir été impressionné par le courage physique de Donald Trump lors de la tentative d'assassinat du 13 juillet dernier. Au final, le président russe a même concédé que si quelqu'un veut reprendre contact, cela ne me dérange pas et qu'il était prêt. C'est d'ailleurs la déclaration la plus tonitruante qu'il ait faite au sujet de Donald Trump.
Et est-ce que Donald Trump a saisi la balle au bond ?
Oh oui, Philippe, immédiatement, le jour même, le 47e président des États-Unis a répondu tout de go : je pense que nous allons nous parler. Hier, lors d'une interview accordée à NBC.
Et il sera forcément question de l'Ukraine. Xenia, quelle a été justement la réaction des Ukrainiens à cette élection de Donald Trump, sachant qu'il pourrait revenir sur l'aide massive que Washington apporte à Kiev dans sa lutte contre l'armée russe?
Alors, les responsables ukrainiens ont félicité Trump pour sa victoire, mais beaucoup ont des inquiétudes pour l'avenir. Ils savent qu'ils devront convaincre Trump de continuer à aider l'Ukraine, car il voit ce conflit comme trop coûteux. Le président Zelensky a dit que la victoire de Trump était impressionnante et a rappelé leur bonne rencontre en septembre. Pourtant, il reste des questions sur leur future relation, car Trump a déjà exprimé des doutes sur le soutien militaire. Certains responsables ukrainiens espèrent que le changement de pouvoir aux États-Unis pourrait aider Kiev. Et puis maintenant, que Trump est un nouveau président, l'Ukraine devient une question de succès ou d'échec. C'est désormais son affaire personnelle et certains responsables affirment également que la guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase. C'est la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Pour l'Ukraine, cela signifie que rien ne sera fait comme ces 2 dernières années et demie, a déclaré l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.
Et pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, certains plaisantent même, se préparent à une troisième guerre mondiale. Alors, qu'a dit précisément Donald Trump sur cette guerre en Ukraine pendant sa campagne et comment les Ukrainiens l'ont-ils ressenti, notamment sur l'aide financière?
Alors, il a souvent dit qu'il pourrait mettre fin à la guerre en un jour, mais sans donner les détails. Il a aussi critiqué les montants de l'aide américaine pour l'Ukraine, promettant de s'occuper de ce problème dès son retour à la Maison-Blanche. Au cours de l'été, Trump a déclaré que le président ukrainien importait 60 milliards de dollars à chaque fois qu'il s'est rendu aux États-Unis. Et en octobre, que Zelensky est l'un des meilleurs commerçants qu'il n'a jamais vu. Trump a déclaré ceci : nous continuons à donner des milliards de dollars à un homme qui a refusé de conclure un accord, Zelensky. Il n'y a pas d'accord qu'il pourrait faire et qui serait meilleur que la présente situation. Le pays a été détruit, il ne saura pas être restauré. Il a aussi rapproché à Zelensky de ne pas vouloir de compromis de paix. Et bien sûr, ces déclarations inquiètent en Ukraine beaucoup.
Asbel, vous avez fait, vous, une revue de presse sur la victoire de Trump. Vous avez lu la presse hispanophone. Qu'est-ce qu'on en dit au Mexique, par exemple ?
La Jornada, le journal, affirme que le ton va changer. Les relations étaient cordiales et solides avec Biden. Or, avec Trump, il faut s'attendre à un changement de style, car avec lui, les négociations commencent toujours par des menaces. En Espagne, El Mundo constate que les électeurs latinos ont effectivement été décisifs, mais pas en faveur de Kamala Harris. Trump a considérablement amélioré ses performances auprès des Latinos, mais aussi des Noirs et des jeunes. Pour le journal, il s'agit d'un changement historique dans le vote des minorités. Selon El País, ce changement ne peut s'expliquer que par le triomphe de l'antipolitique. C'est le triomphe de la désinformation exploitant un mécontentement réel que l'extrême droite a su détecter. Le racisme et la misogynie sont devenus des arguments valables pour la moitié du pays, affirme le journal.
Alors, les démocrates ne font pas appel à ce genre de méthode ?
El País accuse Biden de la défaite et rappelle que pendant plusieurs mois, les démocrates ont minimisé son déclin physique. On pourrait même dire qu'ils ont essayé de le cacher. Mais lors du débat télévisé face à Trump, il est devenu évident qu'il n'était pas au meilleur de ses capacités. La vérité a éclaté au grand jour. Cet épisode montre que les démocrates, eux aussi, ont eu leurs propres écarts avec la vérité pendant cette campagne.
Intéressons-nous maintenant à ce qui s'est passé à New York. C'est là que se trouve ce quartier surnommé Little Odessa, un quartier de migrants, où vit la communauté de russophones la plus importante au monde, hein, en dehors de l'ex-URSS. Elsa Vidal de la rédaction russe de RFI, comment ses habitants ont voté ?
Eh bien, dans cette ancienne station balnéaire construite au bord de la plus belle plage de New York, pour des Européens fortunés de la fin du 19e siècle, où il ne reste plus aujourd'hui que plutôt des restaurants et des boutiques russes, ukrainiennes, azerbaïdjanaises, très populaires, il a été difficile pour notre journaliste Denis Strelkov, envoyé en reportage, de trouver un électeur en faveur de la candidate démocrate. Le premier habitant interviewé par Denis est âgé d'une soixantaine d'années. Il est né dans les Carpates hongroises, il a grandi à Budapest. Il dit qu'il votera Trump car il est le seul à pouvoir, je cite, « changer le monde et à rendre sa grandeur à l'Amérique » selon le slogan de Trump, désormais mondialement connu. Brighton Beach est plutôt, en effet, un quartier de la grosse pomme où le vote républicain domine. Michael Novakov, ou Mikhail Novakov au moment où il est arrivé aux États-Unis, originaire d'Azerbaïdjan, lui, est membre de l'Assemblée de l'État de New York, un organe législatif qui rassemble les représentants de 45 districts de la ville. Il a commencé sa carrière aux côtés des démocrates, mais il a depuis changé d'affiliation et il nous explique pourquoi.
Она не хочет обратно в социализм. Она приехала в капитализм и хочет оставаться в капитализме.
Il explique quoi?
Il explique qu'il a quitté, comme le reste de la communauté, des pays qu'on déclarait socialistes et qu'il ne voulait pas revenir au socialisme, qu'ils veulent rester, lui et la communauté, au capitalisme. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a quitté le Parti des démocrates et qu'il s'est affilié au Parti des républicains, comme nombre de ses habitants issus de l'Union soviétique.
Est-ce le principal motif du vote républicain ?
Non, pas du tout. D'autres habitants trouvent aussi que le Parti démocrate a perdu la classe ouvrière. Et particulièrement... Oui, un son ?
Oui, on va peut-être écouter.
Oui, c'est vrai, pardon, je vais trop vite.
Tant qu'à faire. Allez, allons-y.
Il видно, что демократическая партия, она не чувствует вот этот рабочий класс, когда-то они представляли.
Mais vous nous dire qui parle et ce qu'elle dit.
Oui, alors elle nous explique que cette électrice de Trump, qu'elle n'est pas du tout radicale, qu'elle est même plutôt une femme plutôt modérée, mais que depuis les années 70, le Parti démocrate n'est plus du tout le parti de la classe ouvrière et c'est pour ça qu'elle s'est tournée vers les républicains.
Les plus jeunes, qui sont aussi arrivés plus récemment, et réfugiés politiques comme Sergueï Vlaslov, qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs ? Qui est cet homme ?
Eh bien, c'est un ancien député municipal de Moscou qui souligne que pour les demandeurs d'asile comme lui, la situation était bien meilleure sous les démocrates et que lors du premier mandat Trump, 2016-2020, l'examen des demandes prenait beaucoup plus de temps et les gens se retrouvaient bloqués pendant des années. Aujourd'hui, il craint pour tous ses amis demandeurs d'asile.
Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction russe de Radio France Internationale.
20 часов в Париже,
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Avec la rédaction en espagnol, revenons maintenant sur les inondations en Espagne qui ont fait au moins 200 morts et près de 100 disparus. Après une dizaine de jours, il semble que les pouvoirs publics espagnols soient enfin unis pour faire face à cette catastrophe naturelle qui est la pire de l'histoire du pays. Asbel Lopez, il faut quand même qu'on revienne sur ce qui s'est passé.
Oui, en fait, il y a deux mots. Une dana a provoqué une riada. La Dana, c'est un phénomène météorologique, aussi appelé goutte froide, gota fria. C'est le sigle pour dépression isolée au niveau supérieur. La Dana se produit lorsqu'une masse d'air froid en altitude est isolée au courant général et descend vers des altitudes plus basses, rencontrant de l'air chaud et humide en surface. Cela provoque des précipitations intenses en peu de temps, ce qui entraîne des inondations soudaines. La riada est un terme qui désigne une grande crue ou une augmentation soudaine du débit d'une rivière, généralement due à des pluies intenses. Une riada peut emporter des objets et causer des dégâts aux infrastructures et aux zones habitées le long du cours de la rivière. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 29 octobre dans la région de Valencia.
Où RFI a envoyé des envoyés spéciaux, des envoyés spéciales d'ailleurs même, puisque c'est Angélica Pérez et Pauline Glaise. Et elles ont interviewé plusieurs personnes.
Oui. Entre autres, José Ángel Núñez, chef de climatologie de l'agence de l'État en charge de la météorologie, la AEMET.
Hubo una cuestión que yo creo que fue la clave para que se produjera la tragedia.
Que dit-il, Angel Núñez?
Il explique qu'il pleuvait dans les montagnes, mais pas à Valencia. Il répète « no llovía, no llovía », il ne pleuvait pas, il ne pleuvait pas. Il y avait d'un côté une alerte rouge pour la riada, mais de l'autre côté, pas de pluie. Les gens se disaient « lloverá más tarde », la pluie, c'est pour plus tard. C'est comme ça qu'ils ont été piégés, selon José Ángel Núñez. Or, selon lui, quand il pleut dans les montagnes, c'est très dangereux. Écoutons-le.
Cuando llueve en las montañas es lo realmente peligroso, peligrosísimo, porque la fuerza del agua es tremenda.
Quand il pleut dans les montagnes, cela peut être terriblement dangereux, car la force de l'eau est immense. Il a partagé avec nos envoyés spéciaux son angoisse, car lui savait très bien ce qui se passait. À 11h30, plusieurs heures avant la riada, il a tweeté en disant aux gens de ne pas se fier à la situation, qu'il ne pleuvait pas sur le littoral, mais qu'il pleuvait énormément à l'intérieur et que les rivières et les ramblas étaient en crue.
Les ramblas, dites-vous, c'est quoi les ramblas?
Les ramblas sont des cours d'eau temporaires, principalement dans les régions arides ou semi-arides. Ce sont des lits de rivières secs qui ne contiennent de l'eau que pendant les périodes de fortes pluies. Or, comme il le dit, ils étaient en crue.
Alors ce qui surprend, c'est l'énorme quantité de voitures à Valence, les unes sur les autres, enchevêtrées, transportées, charriées. On imagine bien que beaucoup de gens, de personnes ont été piégées dans ces voitures.
Oui, oh, tout à fait. Angélica Pérez et Pauline Glaise ont interviewé aussi Roberto Narrotero, membre de Guardia Civil Solidarios, Gardien Civil Solidaire, une association espagnole qui se mobilise lors des catastrophes. Il évoquait justement ce sujet.
Pues mayormente está en garajes, porque han ido a salvar el coche y se les ha pillado dentro de los garajes, de los subterráneos. Ha habido mucha gente que ha muerto.
Aidez-nous là encore à comprendre ce qu'il
dit. Les corps ont été retrouvés principalement dans les garages, car les gens sont allés sauver leurs voitures et ont été pris au piège à l'intérieur des garages souterrains. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes aussi sur l'autoroute. Beaucoup de gens ont été emportés par les eaux. Et le moins nombreux sont morts dans des maisons particulièrement particulières. À Valencia, il y a beaucoup de maisons basses, même si généralement les gens ont monté au premier étage. Et je vous propose, Philippe, de finir avec une image très parlante de Roberto Narrotero. Écoutons-le.
Aquí en Valencia, danas hay todos los años. Y siempre se inunda los garajes. Siempre se inunda los garajes, pero a media rueda.
Qu'est-ce qu'il a dit à Angélica Pérez et Pauline Glaise?
À Valencia, tous les ans, le phénomène météorologique de la goutte froide se produit. Les garages sont toujours inondés. Mais jusqu'à la moitié des rues, tout le monde descend, monte les voitures et tout est réglé. Les gens ne s'attendaient pas à une telle catastrophe. En 2 ou 3 minutes, tout était déjà inondé. C'était comme un tsunami, mais à l'envers, de la terre vers la mer. Et à ce propos, Philippe, les autorités concentrent désormais leurs efforts en mer, où l'on pense que la majorité des disparus ont pu être emportés. En mer et dans la Albufera, la vaste lagune d'eau douce qui communique avec la Méditerranée.
Ouais, absolument, la recherche des victimes des inondations maintenant s'étend aux plages et à ces lagunes, puisqu'on le disait tout à l'heure, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui manquent encore à l'appel. Asbel Lopez de la rédaction hispanophone de Radio France Internationale. Le cinéma ukrainien contemporain est devenu très populaire en Ukraine et à l'étranger depuis 2022, c'est-à-dire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pourquoi ? Eh bien, c'est la question que je vous pose, Xenia Jean-Clé de la rédaction ukrainienne.
Alors, le cinéma ukrainien a pris une nouvelle dimension ces dernières années. Il est devenu un moyen de rassembler les gens et de montrer la culture ukrainienne sous un nouveau jour. Des films comme Klondike d'Irina Tselek ou Les Papillons de fer de Roman Lubi racontent des histoires réelles qui touchent directement la défense du pays et montrent la résilience des Ukrainiens face aux difficultés. Pour les spectateurs ukrainiens, les films renforcent le sentiment d'unité et de solidarité. Et pour le public international, ils permettent de mieux comprendre l'Ukraine et les valeurs qu'elle défend. Ces films captivent car ils rencontrent une histoire de lutte pour la liberté qui parle à tous. Une étude commandée par le ministère de la Culture de l'Ukraine indique que près de 70% de la population ukrainienne estime que le cinéma national renforce leur sentiment d'appartenance et de solidarité en ce temps de crise.
Alors on parle souvent aujourd'hui de la décolonisation dans la culture. Comment est-ce que le cinéma ukrainien contribue ou pas à ce processus ?
Oui, en fait, en se réappropriant leur histoire et leur récit, les Ukrainiens peuvent faire connaître une culture unique et indépendante. Il y a vraiment beaucoup de films, comme par exemple celui de Daria Nishenko, le film qui s'appelle Malevich. Bien sûr, tout le monde connaît le nom de Casimir Malevich et son célèbre carré noir, mais peu savent qu'il était ukrainien. Et ce film dévoile une facette de l'histoire de Malevich. Malevich, l'habitant de Kiev, Malevich, l'ukrainien, qui n'a pas eu peur de parler de l'Holodomor, la grande famine de 1933. Il a été persécuté par les Soviétiques, qui ont soigneusement effacé son héritage. D'ailleurs, le tournage de ce film a commencé dès le début de l'invasion et il permet de revoir des faits historiques sous un nouveau angle, celui d'une Ukraine indépendante, libérée de la version soviétique de l'histoire.
Autre question, est-ce que ce cinéma ukrainien peut être aussi un moyen de communication avec le reste de la planète ? Est-ce qu'on peut dire qu'il crée un lien entre l'Ukraine et d'autres pays dans le
monde ? Tout à fait, Philippe. Aujourd'hui, les films ukrainiens jouent un rôle de messager pour l'Ukraine à travers le monde. Ils remportent des prix et attirent l'attention lors de grands festivals, ce qui permet au public international de découvrir ce que vivent les Ukrainiens quotidien. Mais il y a aussi des films sur l'Ukraine par des réalisateurs étrangers. Par exemple, Freedom on Fire du réalisateur Evgeny Afinyev, qui est également auteur du célèbre documentaire Winter on Fire, nommé aux Oscars et aux Emmy. Nous lui avons demandé quelles sont ses motivations et qu'est-ce qu'il voulait dire à travers son récit.
As a filmmaker and just a global citizen, I think it's important to continue educate the audience across the globe about the fact of the war.
Que dit-il ?
Alors, il explique qu'en tant que citoyen du monde et cinéaste, il trouve essentiel d'informer le public sur les réalités de cette guerre, qu'il n'a pas commencé en 2022, mais en 2014. Pendant 8 ans, ce conflit a été largement ignoré par le reste du monde, ce qui a permis que les crimes de guerre restent impunis. Cette indépendance, cette indifférence a, selon lui, ouvert la voix à Poutine. Il se pose la question, quelle sera la prochaine étape dans cette escalade et si le monde ne prenne pas cette guerre au sérieux. Ce qui est intéressant, c'est que Yevgeny, bien qu'américain, est bien né en Russie, à Kazan. Il vit aujourd'hui et travaille aux États-Unis, à Los Angeles, et depuis de nombreuses années, il travaille sur le cinéma indépendant, sur le cinéma sur l'Ukraine. Et son origine russe et son regard équilibré donnent à son cinéma une certaine crédibilité. Donc, son intention est de sensibiliser les décideurs.
I think every movie, and like I saw Winter on Fire, and today's Freedom on Fire.
Alors, que faut-il comprendre ?
Alors, il explique que des films comme le sien ont le pouvoir de sensibiliser et d'inciter à l'action. Selon lui, son film aide les dirigeants mondiaux à mieux comprendre la situation en profondeur, notamment grâce aux projections organisées devant le pape François, devant le Sénat américain, lors de conférences de sécurité de Munich, au Parlement européen et dans d'autres parlements.
On voit aussi que la langue ukrainienne prend une place importante dans ces films. Comment le cinéma est-il à valoriser la langue ukrainienne ?
Alors, l'utilisation de la langue ukrainienne au cinéma est devenue un symbole de fierté et de dignité. Les réalisateurs choisissent de filmer en ukrainien, ce qui renforce le statut de la langue dans la culture du pays. Et selon les rapports de l'agence ukrainienne du cinéma, Dershkino, la production de films en langue ukrainienne a augmenté, représentant aujourd'hui environ 85% de l'ensemble de production nationale.
C'était Xenia Jean-Noclé de la rédaction justement ukrainienne de Radio France Internationale. Accent du Monde à retrouver bien évidemment sur le site internet et sur l'appli de RFI.